Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mardi 28 février 2023, journée au temps un petit peu mitigée entre nuages et éclaircies dans le Beaujolais et aux températures fraîches autour de 5 à 6 degrés. Qu'est-ce qui nous attend dans cette émission d'ici 13h? Eh bien, on va avoir une rubrique du coach tout d'abord et puis un coup de fil à notre libraire Bertrand Lamure. Mais pour commencer, on va passer un moment par téléphone avec notre invité du jour. Il est musicien, mais pas que, il est également poète, auteur et comédien aussi. C'est HK qui, à travers ses créations, parle de notre monde depuis maintenant une quinzaine d'années, avec un univers poétique, joyeux, combatif, souvent, toujours fraternel. Il a chanté l'importance de la culture au cœur de la crise du Covid avec son titre « Danser encore », morceau qui a fait le tour du monde. Et il se lance dans une tournée partout en France qui va passer pas loin de chez nous fin mars au Transborder à Lyon. On va passer un moment par téléphone avec lui, mais d'abord on va l'écouter comme chaque émission commence en musique. On l'écoute donc avec son titre « Nos vieilles chimères ». Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous. Chimère du chanteur HK sur Calade, HK avec qui on passe un petit moment tout de suite.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite par téléphone, on est avec l'artiste HK. Bonjour.
Salut.
Je dis artiste parce que pour moi, vous étiez un musicien, mais en fait, pas que. J'ai découvert que vous faisiez beaucoup, beaucoup d'autres choses. Vous êtes aussi auteur et même auteur de romans et auteur de BD, entre autres.
Ouais, c'est ça. Bah, la musique, c'est vraiment le biais par lequel on me connaît, avec mes chansons, mes albums, mes concerts. Mais voilà, j'aime raconter des histoires, j'allais dire, au sens large. Donc des fois, ça peut être sur une scène de théâtre, des fois, ça peut être en laissant libre cours à mon imagination tout au long d'un bouquin, d'un roman. Mmh. Donc voilà, je suis un peu touche-à-tout, poétique, musical, scénique.
Et quand vous allez toucher à quelque chose d'autre que ce pourquoi on vous connaît d'habitude, que la musique, l'envie, elle vient d'où de se dire je vais aller essayer un autre média, je vais essayer un autre support.
Moi, c'est surtout de raconter des histoires. Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis souvent, j'essaie de faire ça en lien. Par exemple, quand j'écris des bouquins, c'est une forme qui est un peu particulière parce que il y a des voilà, c'est comme un roman, mais c'est entrecoupé de poésie, de textes de chansons à chaque fois. Mmh. Et donc, limite, j'écris comme je pourrais le raconter, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que, notamment, il y a un des bouquins qu'on a mis en scène sur une pièce de théâtre musicale, par exemple. Mmh. Donc, c'est vraiment cette idée-là, vraiment de raconter des histoires et toujours d'imaginer une oralité, que ce soit en musique ou, voilà, ou scandé ou porté, comme ça. Mmh.
Dans la musique, on vous connaît pour vos textes où il y a un mélange d'indignation et puis d'espoir. Je résume à gros traits, je m'en excuse. Il y a beaucoup de bonheur aussi dans vos chansons. Enfin,
En tout cas, une aspiration à une certaine idée du bonheur partagé. Donc, je pense que c'est ça. Quand on chante la chanson « Indignez-vous », on s'indigne parce que voilà, il y a des choses qui nous révoltent, qui sonnent pas bien dans ce qui se passe autour de nous. Mais on est toujours attiré voilà, vers des rêves, des espoirs, des envies. Et c'est ça qui nous anime. Et pour moi, la musique, la poésie, elle est faite pour mettre en valeur ça. Mmh. Quand on sort la chanson Danser encore, qui est la chanson, une des chansons par laquelle on s'est fait connaître ces deux dernières années.
Ouais.
C'est une chanson voilà, qui parle d'une rage de vivre, une envie de vivre, de se retrouver, de danser, d'être ensemble. Et tout ça, c'est dit voilà, dans un contexte compliqué où voilà, avec les confinements, où on se sentait un peu toutes et tous frustrés, enfermés, des fois, voilà, des fois dans l'incompréhension, des fois démunis. Et puis nous, on débarque avec cette chanson. Et aujourd'hui...
C'est devenu un hymne.
Ouais, c'est devenu un hymne, et aujourd'hui, avec ce retour à la vie normale, bah oui, la chose qu'on doit faire, qu'on a envie de faire, c'est de profiter de ces moments où on peut justement danser encore, se retrouver, être ensemble et pas bouder notre plaisir. Mmh.
Je voulais vous demander, est-ce que c'était pour vous une bonne journée? Qu'est-ce qu'il faut dans la vie pour passer une bonne journée? Qu'est-ce qui est important au quotidien?
Déjà d'avoir bien dormi, déjà de se réveiller pas trop fatigué, parce que des fois, on peut soit avoir mal dormi, soit il y a une longue journée qui nous attend et on la commence déjà fatiguée, là ça c'est pas bon. Donc déjà, voilà, se réveiller bon pied, bon oeil, déjà ça aide. Bah c'est sûr, un petit bout de soleil, moi j'aime le calme, la tranquillité, j'aime pouvoir... avoir le temps à un moment donné dans la journée de pouvoir me balader, de pouvoir écouter un peu de musique, profiter d'un bon repas, même d'un café entre amis, avec la famille, voilà, ou des choses assez simples.
Ouais. Et vous dites écouter un peu de musique. Je me suis demandé justement, il y a beaucoup de choses dans vos musiques, beaucoup d'influences. Sur un même album, il peut y avoir plein de styles différents qui viennent nourrir votre musique. Vous écoutez quoi? Il y a quoi dans votre baladeur?
J'ai plus de baladeur. Mais je suis curieux un peu tout, parce que même ce que écoutent mes filles, je leur dis, mais tiens, c'est quoi là ce que tu écoutes, tout ça. Mais c'est vrai que ce qui reste dans mes playlists, dans ce que j'aime écouter, c'est peut-être la nostalgie de mon enfance quand j'allais fouiner dans les disques vinyles de mes grands frères et grandes sœurs. Ouais. Et ce qui me reste, ouais, c'est ces vieux disques, ces vieux artistes. Alors peut-être parce que à un moment donné, on a quand même connu cette époque où ça tutoyait des sommets, quelle que soit la musique qu'on écoutait, mais que ce soit du Bob Marley à Bob Dylan ou aux Beatles ou à Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Tous ces grands noms d'une grande époque, Ray Charles, et j'en passe, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, ça peut être très très éclectique, très large, mais c'est vrai que ça me renvoie toujours un peu à ces vieilles chansons que j'ai découvertes quand j'étais gamin, quoi. Mmh.
Et dans vos musiques, il y a souvent du... Enfin, il y a toujours même du sens et du fond. Il y a rarement des chansons où on tape dans les mains, on danse, on s'amuse.
On tape dans les mains, on danse, on s'amuse, toujours. Après, oui, évidemment, il y a toujours quelque chose derrière. C'est-à-dire que nous, on aime cette idée-là. De toute façon, quand on vient nous voir en concert, on tape dans les mains, on chante, on danse, on s'amuse.
Il y a un message derrière.
Et souvent, de toute façon, le point de départ de toutes les chansons, c'est toujours il peut y avoir eu des fois où voilà, j'ai juste écrit une chanson pour le plaisir, pour me faire plaisir, en assumant qu'elle soit totalement, futile et premier degré. Ça a pu m'arriver aussi, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon habitude et c'est pas du tout la norme de nos chansons. Il y a toujours au point de départ quelque chose qui m'a touché, voilà. Ça peut être une rencontre de façon positive, ça peut être un fait divers qui des fois peut être plutôt révoltant, ça peut être une anecdote, ça peut être une histoire qu'on a envie de raconter, ça peut être venu de une fiction, venu d'un imaginaire, quelque chose qui m'a paru drôle ou cocasse ou une vision poétique, et j'essaie de trouver les mots, les formules, les mélodies, les notes de musique pour que les gens puissent être touchés de la même façon que moi j'ai pu être touché à un moment donné. C'est transmettre une émotion à un moment donné.
Et y apporter, vous parlez de faits divers ou de situations de la vie quotidienne qui peuvent être difficiles, y apporter de l'espoir et de la lumière dedans, des fois c'est un exercice compliqué ou ça se travaille
Pour moi la musique, si c'est pas fait pour apporter un petit bout de lumière en nous, enfin de nous égayer ou alors de nous réconforter, c'est pas juste fait pour accompagner une époque, elle est dure l'époque dans laquelle on vit. Donc si la musique était juste là pour être la bande son, j'exagère un peu, mais je veux dire la bande son de l'apocalypse. j'exagère beaucoup, mais je veux dire si c'était ça la musique, ça se tirait une balle. Ouais. Donc non, la musique, il y a toujours cette idée là, c'est la musique et la poésie. C'est d'essayer d'apporter une petite part de lumière, même dans les moments les plus critiques, ou une part de paix dans un monde en guerre, de pouvoir prendre un peu de recul, des fois un peu de hauteur, ou s'évader même de la réalité pour trouver un refuge, une respiration dans des moments difficiles. Donc la musique et l'art, en général, c'est ça, c'est pour nous aider à traverser ces épreuves en essayant de prendre parfois le meilleur des chemins ou le moins pire, ou en tout cas de pas se laisser sombrer.
Ouais, c'est ce que vous avez fait. Bon, on en parlait avec le morceau Danser encore. C'est devenu comme je le disais, c'est devenu un hymne qui a été repris des centaines, des milliers de fois. Ça fait quoi de voir un morceau devenir ne plus vous appartenir presque? Les gens se sont appropriés.
Ouais, c'est ça. Il y a deux trucs. Il y a ce côté-là un peu du morceau qui ne nous appartient plus. Donc ça peut être déroutant quand on est auteur d'une chanson et quand on la voit autant reprise. Donc il y a la fierté, le bonheur, et on dit waouh. Et puis même des fois waouh, on est surpris quoi de voir cette chanson réapparaître. Là, si on parle de Danser encore, les gens qui à Madrid, à Barcelone, à Milan, à Turin, à Amsterdam, à Bruxelles, et puis évidemment partout en France, et puis même en Outre-mer, c'était assez fou, en Allemagne, c'était à Berlin, quoi. Donc ça a été quand même vraiment une histoire dingue, et je mesure à quel point c'est une chance, c'est un privilège, et puis c'était un bonheur. Et en même temps, nous, je vais pas dire qu'on y était pour rien, on a écrit cette chanson, donc c'était notre contribution, mais après ça nous a totalement dépassé.
Vous n'aviez pas idée en l'écrivant que ça
pouvait... Non, pas du tout, nous on l'écrit au moment où c'était le deuxième confinement, où l'art et la culture étaient qualifiés de non essentiels. Juste à ce moment-là, nous on n'est pas, à la fois moi je... Tu te dis, mais merde, ça veut dire que tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente, c'est non essentiel. Donc ça, on le prend pour nous, mais après, on réfléchit aussi un petit peu, on se dit, mais au-delà de nous, au-delà de ce qu'on, de l'attaque personnelle, ce que ça représente comme idée de se dire que dans des sociétés comme les nôtres, l'art et la culture sont non essentiels, c'est quelque chose, je veux dire, ça mérite qu'on s'arrête sur cette phrase, et surtout qu'on se donne le droit de d'y réfléchir et de se dire, bon ben, qu'on peut être d'accord avec ça, est-ce qu'on peut au moins poser la question sur la place publique et pas, l'énoncer comme ça, parce que là, ça a été repris sur toutes les chaînes et c'était normal, on devait accepter ça comme étant normal, que l'art et la culture étaient non essentiels dans un pays comme la France, dans une région du monde comme la nôtre, avec un état de modernité, de civilisation comme la nôtre. On est des sociétés d'art et de culture, on est le pays de l'exception culturelle, on est des êtres, penser que se sentir vivant en tant qu'être humain, c'est juste manger, boire, dormir, on peut ne pas être d'accord avec ça. Évidemment que nous, on n'était pas d'accord avec ça. Je veux dire, l'émerveillement, cette capacité à l'émerveillement, cette envie, cette curiosité, cette soif de découvrir, cette soif de rencontre, de creuser, de fouiller, de partager, et puis cette sensibilité au beau, c'est tout ce que l'art et la culture peuvent nous apporter, comment elles sont fondamentales pour nous, ce qu'on est aujourd'hui dans nos sociétés. Donc à ce moment-là, il y a tout ça, il y a tout ce dont je parle là qui sort d'un coup en une chanson. Nous, on veut continuer à danser encore, et c'est et ça sort d'un coup, et puis bon,
et puis et ça après, parle aux gens.
Le reste, ça parle aux gens. Nous, on sort la chanson, on l'écrit un soir où on est avec les copains, copines en train de. À l'époque, on répétait un spectacle qu'on ne pouvait pas jouer, du coup, puisque les théâtres étaient fermés. Et puis, on répétait, puis on allait filmer le spectacle pour le partager avec les gens sur Internet. Et puis, un soir, la chanson sort. Le lendemain, on se dit, on va aller se filmer en train de la jouer dans les rues. Et puis, comme ça, on la partagera, quoi.
Ouais.
Mais c'était presque plus pour garder une trace et puis pour honorer ce moment où la chanson était sortie, où on avait buffé. Et puis après, oui, voilà, la suite ne nous appartient plus. Parce que beaucoup de gens ont pensé la même chose au même moment.
Ouais.
Et ce qui est compliqué dans ces moments-là, parce que c'est des moments compliqués, on le sait, voilà, c'est une épreuve, c'est même à l'échelle mondiale, mais même au sein de nos sociétés, au sein de nos familles, enfin c'est une épreuve, un truc qui nous tombe sur la tête, on ne sait pas trop c'est quoi cette histoire, on n'avait jamais vécu de confinement, d'épidémie, enfin voilà, on est tous face à des choses tellement, tellement inconnues, et ce qui est compliqué dans ces moments-là, c'est de ne pas pouvoir débattre, échanger, discuter de façon, presque rationnelle, parce qu'évidemment, il y a toutes les peurs, les angoisses qui sont légitimes, mais on peut aussi leur opposer ce qu'on est nous en tant qu'humains, société, de se dire on va pas tout remettre en question du jour au lendemain, on va pas passer d'une société de liberté, d'art et de culture à une société de contrôle systématique et juste de poser ces questions, c'est-à-dire de les poser sur la table simplement. On peut le comprendre là aujourd'hui avec le recul que dans ces moments-là, c'était quelque chose qu'on pouvait pas, et même nous quand on sort la chanson, on n'avait pas d'endroit où la chanter. Donc les gens voient cette chanson-là, pensent comme nous, ou en tout cas peu partie comme nous, ou en tout cas se disent, tiens, c'est intéressant cette proposition artistique, c'est intéressant ce qui est dit dans cette chanson, ça me parle, ça résonne en moi, et puis les gens ont aimé, ont partagé, et puis l'ont même reprise, et c'est vrai que ça a été, comme vous disiez, des milliers de versions, des millions de gens qui l'ont vu, écouté ou chanté, quoi. Ouais. C'est ça aussi qui était fou, c'est que les gens se sont réappropriés et l'ont chanté. Et donc ça a été un vrai phénomène populaire, spontané, vraiment, parce que là, pour le coup, je veux dire, ça saurait si nous, si à chaque fois qu'on sort une chanson, il y a des millions de gens qui... je veux dire, on n'a pas cette capacité-là médiatique, ni les réseaux, ni rien du tout. On est des artisans de la musique, et depuis X années. Et là, donc oui, ça a été complètement spontané. C'est des millions de gens qui, à un moment donné, ont dit « Oui, je pense qu'on a trouvé le ton... » qui était un peu la ligne de crête, quoi,
ouais.
Où on arrivait à la fois à rester raisonnable, mesuré, positif, et en même temps à dire des choses dans un moment où c'était compliqué. Donc j'ai l'impression qu'on a trouvé le bon le bon ton.
Ouais.
Et puis la musique qui était chouette, qui était à la fois dansante, entraînante, mais pas non plus, j'allais dire, c'était pas de la techno, quoi. C'est très chaloupé. Donc ouais. Même là, ça collait avec cette époque-là où c'était, j'allais dire, mesuré, entre guillemets, joyeusement mesuré. C'est-à-dire, ouais. Voilà, on chaloupait, on balançait, on danse, on se permet d'eux, sans oublier le moment difficile que tout le monde est en train de vivre, mais en se disant, il faut pas abandonner ça, parce que c'est en nous, quoi. Et voilà, j'essaie de trouver des explications.
Essayer de comprendre ce succès. En tout cas, vous en avez fait aujourd'hui, c'est le nom de votre prochaine tournée, qui commence dans pas très longtemps, là, début mars, c'est ça?
Ouais. Exactement.
L'idée de la tournée, c'est, c'est de faire un grand bal populaire un peu partout en France.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment d'en profiter, de faire honneur à l'histoire de cette chanson et à ce qu'elle véhiculait, quoi. Parce que c'est évidemment, quand on disait, voilà, nous on veut continuer à danser encore, bah aujourd'hui, voilà, on peut se retrouver, parfois c'est dans des salles de concert, parfois ça va être sur la place publique, dans des grands bals populaires, parfois ça va être dans des bals paysans, mais toujours avec cette ambiance-là, de se dire, voilà, de profiter de cette joie de pouvoir se retrouver, et nous de cette joie de pouvoir partir sur les routes de France avec cette chanson, parce que c'est vrai qu'elle est partie un peu toute seule, elle a fait sa vie toute seule, et là nous on est content de voyager un petit peu avec elle, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, on va aller un peu partout dans les grandes villes, mais aussi sur les places de village, voilà.
Et il y a eu cette idée de faire une tournée à tarif accessible, ce qui est pas toujours le cas, des fois c'est cher d'aller voir un concert.
Ça a été la discussion avec moi, là vraiment je tiens à remercier notre tourneur, le producteur de spectacle, parce que à la fois pendant cette période de pandémie où nous on avait refusé de jouer avec le pass parce que moi je disais que j'étais pas pour qu'on contrôle les gens à l'entrée de mes concerts, que je faisais pas de la musique pour ça et que je préférais mettre entre parenthèses mes concerts pour plus tard. Donc à la fois le producteur de spectacle qui avait annulé plus de 40 dates à ce moment-là, donc c'est pas rien, et puis et qui nous avait dit, on te suit depuis plusieurs années maintenant, on sait que t'es engagé, on sait que tu es sincère dans ton engagement, donc on te suit. Donc c'était d'un côté ils nous ont suivi pendant cette période-là, et puis là quand on a repris la tournée, donc on leur a dit voilà. On leur a dit, vous nous connaissez, on a toujours fait des prix pas chers dans nos concerts. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on va aller dans des plus grandes salles, on sait qu'il y a une réalité économique, bien sûr, mais voilà, on a essayé vraiment, on a eu une discussion franche, honnête, sincère et ouverte avec le producteur de spectacle. Je le dis parce que c'est rare, et vraiment, c'est les gens de Blue Line qui ont entendu que HK c'est un artiste populaire, c'est de la musique populaire, et c'est une période qui est compliquée pour les gens. Donc on a essayé de faire vraiment le plus accessible possible. Il y a la gratuité pour les enfants de moins de 13 ans, comme ça on peut venir en famille, nous on y tient, ça. J'aime bien ce côté-là, voilà, quand on dit bal populaire, c'est bal familial, quoi. C'est concert, on peut venir en famille. Et puis, je pense qu'on a réussi à pousser autant que c'était possible.
Ouais. Et tournée chargée aussi, il faut le dire. Enfin, j'ai l'impression, quand je vois le nombre de dates qu'il y a déjà de prévues, vous en avez annoncé d'autres à venir jusqu'au mois de décembre.
Ouais.
Vous n'allez pas chômer?
Non, on ne va pas chômer, mais on va en profiter. Voilà, ça a été une période compliquée. On a tellement connu de frustration que là... Et puis, il y a eu un tel succès de la chanson d'ensemble que si on avait ouvert toutes les portes là sur cette année, on aurait pu avoir un concert chaque jour, quoi.
Ouais.
Donc on a limité parce que déjà il faut sortir de cette année vivant et en bonne santé.
Il faut tenir la tournée, bien sûr.
Il faut tenir la tournée, et puis il y aura d'autres années, en tout cas on l'espère. Donc ça nous permet, là, en tout cas, on essaie d'aller vraiment partout en France où on peut. Il y a des grandes salles dans des grandes villes. Voilà, c'est ça. Et puis ça se terminera en novembre à l'Olympia. Donc ça, c'est un peu aussi la récompense.
Ouais. On retrouve toutes les dates, notamment sur votre site hk-officiel.com.
On
peut noter que vous passez à côté de chez nous à Lyon, au Transborder. Ce sera le 31 mars.
Ouais, le 31 mars au Transbo à Lyon, Lyon-Villeurbanne, je sais plus.
Villeurbanne, ouais,
c'est ça. Le 31 mars, on invite les auditrices, auditeurs à venir, comme on a dit, quoi, en famille, et puis voilà, je pense que ça va être un beau moment.
Et alors, vous dites bal populaire, moi je suis curieux, est-ce que ce sera un concert classique? Est-ce qu'il y a des choses, des surprises de prévues? Est-ce qu'on peut s'attendre à...
Non, enfin... C'est un concert classique d'Ashka. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent la chanson Danser encore, c'est musical. Et avec le trombone, le saxophone, l'accordéon, le violon, les guitares acoustiques. Donc là, tout de suite, ça donne une couleur. Après nos chansons, ce soir nous irons au bal. Ce côté-là un peu festif, dansant. Et puis en même temps, voilà, comme on l'a dit, avec nos engagements de toujours, mais qui sont toujours avec cette idée d'aller vers des choses qui nous rassemblent, parce que je pense qu'on a cruellement besoin de ça aujourd'hui. C'est de se retrouver, de se rassembler, de se réconcilier avec nous-mêmes, d'avoir juste des moments où on est heureux d'être ensemble, quoi.
Parfait. Merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et au plaisir, à très bientôt, pourquoi pas le 31 en Transborder.
Ouais, super, merci, salut.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va quand même écouter quelques notes de ce morceau dont on a beaucoup parlé. Voici Danser encore de HK.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
HK danser encore, donc je vous rappelle qu'il sera en concert dans un mois, le 31 mars au Transborder à Lyon.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Eh oui, il est l'heure de retrouver le coach. Bonjour.
Salut, gamin.
Bon, vous allez bien en forme?
Ça va, la forme.
Bon, tant mieux.
Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle expérience de pensée philosophique qui ressemble vraiment à un dilemme.
Ah, bon.
Cette expérience de pensée, elle a un nom peu ragoûtant. Elle ne dure pas. Je suis bien désolé, mais ça me semblait tellement intéressant. Elle s'appelle le cerveau dans une cuve.
Aïe.
Quoi que tu aimes dire, gamin, il y en a qui bouffent de la cervelle, donc ça ne va pas les déranger plus que ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et il se peut que, quand je vous aurai décrit ce dilemme, eh bien, ça pourrait vous rappeler vaguement quelque chose. Mais avant de vous décrire cette expérience de pensée, il faut nous mettre d'accord sur un petit truc, trois fois rien, même si en réalité, on pourrait débattre de cette question pendant des jours. Quelle différence pouvons-nous faire entre le réel et la réalité? Rien que ça.
Waouh, ouais.
Alors, je vous propose un postulat qui nous permettra de réfléchir au dilemme du jour. Nous partirons du principe que le réel est ce qui est, sans interprétation, sans possibilité de le changer. La réalité, quant à elle, eh bien, est à comprendre comme notre expérience du réel. Ainsi, on peut comprendre que notre réalité dépend de notre ressenti du réel. C'est pour ça que dans le réel, l'eau de mer a une certaine température qui ne bouge pas. Mmh. Et que dans la réalité, les gens du Sud, eh ben, ils vont la trouver fraîche et que les Bretons répondent « Mais non, t'es fou, elle est bonne, elle est chaude, d'un coup. » Et oui, le réel est le même pour tous, mais la réalité, c'est-à-dire la perception du réel, est différente. Ouais. Nous percevons le réel principalement par le biais de nos sens. Et par-dessus viennent s'ajouter nos expériences, nos émotions, ce qui explique un peu que c'est le bordel pour tomber d'accord avec les autres. Une même expérience peut être vécue comme agréable par une personne et comme nulle par une autre.
Ouais.
Bien. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur le réel et la réalité, je peux vous présenter le dilemme du cerveau dans une cuve. Nous devons à Hilary Putman, et c'est un philosophe qui a fait cette expérience de pensée en 1981. Tiens, tout d'un coup, en disant des dates comme ça et des noms, j'ai l'impression d'être Georges Boton, que vous allez retrouver cet après-midi dans la salle. Voici le dilemme du cerveau dans une cuve. Comment pouvez-vous être sûr que vous vivez vraiment ce que vous vivez, que vous vivez votre réalité? Ouais. Comment pouvez-vous savoir que votre cerveau est bien dans votre tête en train de vivre quelque chose et non pas dans une cuve flottant dans un substrat nutritif et qu'il n'est pas relié par des électrodes à un ordinateur qui envoie des stimuli pour vous donner l'impression que vous ressentez les choses de la réalité qui semble vous entourer?
C'est Matrix.
Comment pouvez-vous être sûr à 100% que la réalité que vous vivez est réelle et qu'elle n'est pas simulée? Et comme vient de le dire le gamin, ça nous rappelle vaguement un truc.
Ouais.
Matrix.
C'est complètement le film Matrix, ouais.
Eh oui, parce que ce dilemme de 1981, bah, c'est la base d'un des plus grands succès du cinéma cyberpunk.
Ouais.
Alors, lorsqu'on se met à penser à ce truc, ça peut vite nous donner le vertige et un vertige de malade. Mmh. Puisque mon contact avec le réel ne se fait qu'à travers mes sens, comment puis-je avoir la certitude que ce que je vis est vrai? Mais au-delà du vertige que peut nous donner cette réflexion, le dilemme du cerveau dans une cuve est une invitation à nous questionner sur ce que nous croyons être la réalité et que nous confondons parfois cette réalité avec la vérité et l'objectivité. Ce dilemme, c'est une invitation à comprendre que ce que nous prenons pour une réalité est juste un point de vue, une expérience. Nous sommes chacune et chacun un univers dont nous sommes le centre et nous avons tendance à penser que notre manière de percevoir le monde est la même pour tout le monde. Mmh. Quand on voyage un peu, gamin, on se rend vite compte que dans d'autres bains culturels, la réalité peut être perçue différemment. Et même sans aller si loin, on se rend compte, dans un couple par exemple, que chacun ne vit pas les choses de la même manière. Surtout quand on s'engueule d'ailleurs.
Mmh.
Et si je reste persuadé que ma réalité est une vérité, si je confonds ma réalité avec le réel, alors je ne pourrai pas comprendre l'autre et me mettre à sa place. Le cerveau dans la cuve, c'est une invitation à douter de nos perceptions et des choses qu'on leur associe. Chacun vit sa propre histoire, son propre scénario, et chacun, comme je disais, est le centre de son univers. Mmh. Alors pour terminer nos réflexions sur la réalité, le réel et tout ça, j'aimerais partager avec vous une parabole célèbre de Chuang Tzu, un Chinois qui n'a pas écrit des conneries. Cette parabole célèbre de Chuang Tzu, elle s'appelle « Le rêve du papillon » et on la trouve dans son recueil « Zhuangzi ». Et ce recueil s'appelle « Discours sur l'identité des choses ». Zhuangzi rêva une fois qu'il était un papillon qui voltait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Zhuangzi. Soudain, il se réveilla et il se tenait là, un Zhangzi, indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Entre Zhuangzi et un papillon, il doit bien exister une différence. C'est ce qu'on appelle la transformation des choses. Voilà mes louloutes, je vous laisse avec tous ces doutes et je vous souhaite une belle réflexion sur le réel et la réalité. Vous avez jusqu'à ce soir pour y penser. Et au cas où vous arriviez à la certitude que votre cerveau se trouve vraiment dans une cuve, au moins vous avez du bol parce que dans la cuve, ils vous ont branché sur Calade.
C'est vrai que c'est pas mal. Bon, moi, en attendant, ça m'a donné envie de me refaire la trilogie Matrix, donc je sais ce que je regarde ce soir. Merci beaucoup, coach.
Salut, gamin.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, on virevolte d'une rubrique à une autre et on part tout de suite du côté de la librairie des Marais avec Islem. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bon. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'humeur de la libraire et je suis hyper contente. Et on va parler de livres pour enfants.
Super, très bien. Par quoi on commence ?
Eh bien, on va commencer avec les tout-petits. Parce que du coup, moi j'aime bien parler à tous les enfants. En plus, c'est la reprise de ça a été la rentrée scolaire, ça fait une semaine. Donc, il leur faut des petites lectures super sympas. Et on démarre avec un petit livre cartonné que j'ai adoré, qui s'appelle « N'aie pas peur ». Et ça a été réalisé par Sir Pacho et Charla. Et c'est édité aux éditions Sarbacane. Et en fait, c'est trop, trop mignon. C'est l'histoire de petits cigognos. Il y en a un qui a du mal, en fait, à sortir de son œuf, qui a du mal à s'envoler, à partir un petit peu dans la vie. Et c'est juste trop, trop mignon. Et les petits-enfants adorent. Et j'adore le visuel. D'accord. C'est très réussi. Donc ça, c'est pour à partir de 2 ans, facilement. Et c'est édité aux éditions Sarbacane. Et c'est trop chouette.
N'aie pas peur, et donc c'est des cigognos, c'est les enfants des cigognes, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, ouais, ouais. Tu vois, dès la première page, la cigogne qui les couve, et t'en as 2 sur 3 qui sortent tout de suite, en fait, et qui sont heureux de partir, hein. C'est normal, c'est la nature. Et t'en as un petit dernier qui n'ose pas, et la maman qui dit, mais non, faut pas que t'aies peur, faut pas hésiter à aller dans la vie. Et je l'ai trouvé très, très réussi. Il est trop chouette.
Une histoire trop mignonne pour les pitchounes, c'est parfait.
C'est ça, exactement, tout à fait, ouais, ouais. Pour les un petit peu plus grands, je dirais à partir de 4 ans, et là, on part aux éditions des éléphants, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et là, c'est l'histoire d'une petite souris. Ça s'appelle la souris qui portait sa maison sur son dos. Ça a été fait par Jonathan Stutzman et Isabelle Arsenault. Et c'est absolument super génial parce que déjà, c'est découpé en fait. Le visuel est très très réussi parce que c'est des petits dessins qui ont été découpés et c'est super sympa. Ah. Et l'histoire, c'est ce petit Vincent, cette petite souris qui est trop mignonne, qui en fait a sa petite maison sur son dos. Et elle va se déplacer dans les endroits où on a besoin de lui en fait. Et du coup, il va rencontrer plusieurs animaux qui vont lui dire « Ah, mais je suis fatiguée, je suis affamée. » Et Vincent, qui est hyper généreux, il va dire « Ah, mais tu pourras te reposer dans ma petite maison parce qu'elle est là pour ça. » Et c'est souvent des animaux plus gros qui lui disent « Mais non, c'est trop petit, je peux pas vivre chez toi. » Mais en fait, si. Chez Vincent, on accueille tout le monde, toutes les tailles, tous les animaux du monde. Et c'est trop génial. Vraiment, c'est super sympa. Et les enfants, ils vont adorer. Ça s'appelle La souris qui portait sa maison sur son dos. C'est trop, trop mignon.
Parfait.
Oui, il y a des super trucs en jeunesse, hein, Mathieu. Bon. Vraiment, je vous invite tous à venir voir parce que c'est super cool.
On le rajoute dans la liste.
Exactement, tout à fait. Pour un petit peu plus grand, s'il me reste encore quelques minutes, parce que oui, je suis bavarde.
Ouais, il nous reste du temps, il n'y a pas de souci.
Bon, ben super, trop bien, merci beaucoup. Il y a un autre album qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Je suis ton manteau », qui a été réalisé par Angélique Villeneuve et Julien Martinière, et c'est édité à la maison d'édition L'Étagère du Bas. C'est des petites maisons d'édition que j'adore mettre en avant, et c'est un travail d'une poésie infinie. Donc ça s'appelle « Je suis ton manteau » et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Igor et qui a peur de tout. En fait, voilà, il a une grande peur en lui.
Ouais.
Et surtout, il a peur de franchir le pont qui va le mener au grand, ce qu'on appelle le grand là-bas. ce qui va lui permettre d'apprendre la vie, en fait. Une fois qu'on a franchi le pont du grand là-bas, on va apprendre des tas de choses. Sauf que Igor, ça le terrorise. Mais Igor a un super papa qui va avoir une super méga géniale idée. Il va lui mettre des ailes dans son manteau, en fait. D'où le titre « Je suis ton manteau ». Et c'est absolument magnifique. Évidemment, vous vous doutez bien que Igor, ben, il va réussir à franchir le pas. Il va dépasser ses peurs. Mais j'en dis pas plus. Il faut quand même que vous puissiez le lire, vous puissiez apprécier le travail. Et c'est quelque chose de très, très poétique et c'est vraiment très, très réussi. Ouais. C'est un de mes grands coups de cœur là, de cette nouvelle année.
Avoir peur de devenir grand, c'est quelque chose d'assez courant des fois, non, d'avoir peur de grandir.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est même super sain, mais quand on franchit justement le passage, ben on est encore...
Oui, c'est chouette.
C'est vraiment chouette, ouais.
Je viens de trouver de l'illustration, la première de couverture, il est super beau en plus.
Il est très beau, ouais.
Ouais, ça a l'air très, très joli.
Très, très beau, très poétique. Vraiment très, très chouette, ouais.
Bon, je suis ton manteau. Allez, je le rajoute à la liste.
C'est ça, tout à fait. Et là, ben, on part chez les plus grands quand même, où là, c'est à partir de 10 ans, mais on n'est plus dans la poésie, on est un peu dans mon côté un petit peu déjanté, hein, Mathieu, tu commences à me connaître.
Ouais.
Et là, on va partir en colo.
Ok.
Dans la colo des cas foutus, parce que, bah oui, moi, je suis un cas foutu, mais je suis pas la seule. Et là, en fait, on part dans la colo des cas foutus, donc vous partirez cet été, hein. Et en fait, dans la colo des cas foutus, y a plusieurs cas. Il y a Kylian, le menteur, hein, il va te mentir toute la journée. Il y a Nour, l'égoïste. Alors, elle est sacrément égoïste. Sans oublier, évidemment, Sandro, le colérique, hein, qui, lui, s'énerve pour rien, en fait. Il y a, bien entendu, aussi Ariel, la voleuse, Léo, l'insolent, et Zélie. Alors, Zélie, elle est extraordinaire et elle se lave jamais. Donc, c'est sympa d'aller dans la colo des cas foutus. C'est sympa, c'est pas sûr.
D'accord.
J'ai vraiment adoré ce roman et je viens de m'apercevoir que j'avais pas cité les auteurs. C'est Sophie Laroche et Adeline Pham et c'est édité chez Fleurus dans la collection Cactus. J'adore cette collection et c'est absolument extraordinaire. Enfin, on s'éclate, en fait, on le lâche pas. Il y a quelques petites illustrations. Ouais. À l'intérieur, mais c'est un vrai roman.
Un vrai roman. Vraiment,
il y a de quoi faire. Ils sont tous fous. Enfin, ils vont piéger les moniteurs et tout. Enfin, voilà.
La colo rêvée.
C'est ça. Alors rêvée ou pas, je ne sais pas.
Ou cauchemar.
Voilà, c'est ça.
Et donc, c'est à partir de 10 ans.
Ouais, voilà, 10 ans, même 9 ans, bon lecteur, sans problème.
Ok, donc pour
vraiment, pas de
prendre plein d'idées de bêtises à faire pour les prochaines vacances, pourquoi pas.
C'est ça, alors, désolé les parents.
Très bien, la colo des cas foutus, ça a l'air chouette, ouais.
La colo des cas foutus, ouais, c'est assez sympa, ouais. Ils font que des bêtises et c'est marrant comme tout, mais ils sont à la fois hyper attachants. Donc c'est ça que j'ai trouvé aussi assez réussi dans ce texte.
Bon, on a une jolie liste, est-ce qu'on rajoute un dernier livre dedans?
Allez, j'en avais deux, mais comme je suis bavarde...
On va essayer de tenter les deux,
je vais essayer d'aller vite. Il y a un texte aussi, bon là c'est pour ados, je dirais à partir de 11 ans, allez. Ça s'appelle « Le journal d'une déesse » de Teresa Buongiorno. C'est édité chez Flammarion Jeunesse et c'est juste génial parce qu'évidemment tout le monde est déjanté dans cette famille. En fait, c'est l'histoire de Débé qui mène une vie d'adolescente à peu près comme les autres, on va dire. Sauf que c'est une déesse et ce n'est autre que la fille de Zeus et d'Héra.
Ah oui.
Donc t'imagines bien que du haut de l'Olympe, il se passe des trucs assez sympas, ou pas, encore une fois. Et en fait, donc le journal d'une déesse, comme son titre l'indique, c'est son journal. Et tu vas suivre tous ses petits secrets, parce qu'elle nous confie ses petits secrets à elle, les secrets des dieux... Et tu vas rencontrer, évidemment, ses oncles et tantes totalement excentriques, les parents colériques, les frères et sœurs capricieux. C'est une famille totalement déjantée et j'adore. C'est vraiment chouette, très très bien. Puis c'est super bien écrit, je trouve. Et on a eu des super retours des ados. Les ados, ils ont bien aimé.
Ok, donc s'identifier à une déesse, elle a 12 ans, c'est ça, Ebé?
Ouais, c'est ça, à peu près. C'est une petite adolescente, ouais, c'est ça.
Très bien.
Et du coup, c'est assez sympa. On se marre bien.
Bon, parfait.
Et du coup, s'il me reste juste quelques secondes, je voudrais vous parler d'un livre. Alors là, c'est pour ados plus 13-14 ans, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ça s'appelle « Les Désaccordés » de Anne Corté. C'est édité aux éditions École des loisirs en Medium Plus. C'est une collection que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est l'histoire de Zoé. Zoé qui arrive dans un nouveau lycée. Donc, qui dit nouveau lycée, dit nouveaux camarades. Et en fait, c'est un peu à chacun sa manière de se réaliser. Il y en a qui vont lutter contre la maladie, il y en a d'autres qui vont lutter un petit peu contre leurs parents pour se trouver une place. Et il y en a même qui vont lutter contre eux-mêmes. Et du coup, chacun va s'aider d'un instrument. Il y en a qui vont jouer du ukulélé, d'autres qui vont aider à combattre la maladie avec un appareil photo pour voilà observer le monde. Et c'est juste magnifique. J'ai beaucoup aimé ce livre qui apprend beaucoup de choses et qui voilà qui permet de encore une fois, on est dans le contexte de devenir grand, grandir et affronter un petit peu les difficultés de l'adolescence, trouver sa place. Et je l'ai trouvé absolument très 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 réussi.
Super. Les Désaccordés,
voilà, c'est pour moi, Mathieu.
C'est de qui?
C'est de Anne Corté.
Ok, bon, parfait. Merci beaucoup pour cette sélection.
Eh bien, avec grand plaisir. Merci à toi. Et puis, à très bientôt et bonne écoute sur Radio Calade à tous.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci. À bientôt. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, j'ai juste le temps de vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. Et d'ici là, cette émission sera retrouvée en réécoute sur radio-calade.fr. La rediffusion, ce sera demain matin à 10h. À tout bientôt sur Calade. Ciao, ciao.
Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord. Oh non 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 non, nous on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord.
Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non 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 non,
nous on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Auto, métro, boulot, conso, auto, attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience.
Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non 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 non,
nous on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Thank you.
soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Passer nos vies sur une grille d'accord.